Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Radio Foot International à l'issue de ces matchs un peu fous de Ligue des Champions. Et le PSG qualifié en demi-finale, le PSG qualifié et soulagé. Car cette équipe a été battue par Aston Villa 3-2, que ce fut dur pour les Parisiens de se hisser en demi-finale dans ce dernier carré, bien aidé ce soir par leur gardien Donnarumma. Les joueurs d'Unai Emery étaient à un but de l'égalisation, eux aussi aidés par leur gardien et capitaine Emiliano Martinez. Nous rejoindrons Cédric de Oliveira à Birmingham dans quelques secondes. Qualification aussi pour Barcelone, mais là aussi, soirée très compliquée à Dortmund, où les Blaugrana ont été secoués par le triplé de Serhou Guirassy. Les jaunes et noirs quittent la compétition, mais ils ont gagné 3-1. Et l'international guinéen reste le meilleur buteur avec 13 buts. Demain soir, deux grands clubs en danger. Le Real Madrid est-il vraiment à 24 heures de se qualifier en rattrapant 3 buts de retard? Alors, au vu de la soirée de ce soir, eh bien pourquoi pas? Et les ogres bavarois qui arrivent à Milan avec un but de retard face à un impressionnant Inter, pourront-ils aussi renverser la tendance? Tout est possible, on le sait, dans le football, n'est-ce pas Franck Simon? Bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
C'est ça qui fait le piment et le sel de ces soirées, n'est-ce pas?
Oui. On a vibré en tout cas toute la soirée.
Oui, exactement. Bonsoir Ludovic Duchesne.
Bonsoir à tous les amis d'RFI.
Merci d'être avec nous, David Finzel. Veille là-bas sur l'après-match et tout ce qui se dit de cet après-match. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Sur le centre de Barcola. Oh, la récupération, oh, le but parisien, c'est Achraf Hakimi qui est venu profiter de ce superbe débordement d'Ombardé Barcola. Le plat du pied et ça fait 1-0 pour le PSG. Kvaratskhelia, Achraf Hakimi maintenant pour Dembélé côté droit. Dembélé qui va rentrer dans la surface. On est à l'entrée de la surface, la frappe de Mendes dans le but. C'est splendide ce que vient de faire le Paris Saint-Germain, le but de Nuno Mendes. Ça fait 2-0. Ballon pour McGinn, on est dans la surface. La frappe, oh le but. Le but d'Aston Villa et voilà l'espoir, on en parlait. La déconcentration, c'est Youri Tielemans qui est venu sanctionner. Ça fait 2-1 pour le PSG. McGinn qui a du champ. McGinn toujours pas accès. La frappe de McGinn. Oh le but. Oh le but exceptionnel de McGinn. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, le capitaine? Ça fait 2-2. Le centre en retrait. La frappe. Oh le 3-2. Le but de Kolsa qui fait vriller complètement Villa Park. Et le but de Kolsa, ça fait 3-2. Pour les Anglais, ils sont complètement fous, les supporters. C'est terminé. Ouf, quel soulagement pour le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
On vous le disait, quelle soirée, celle où les remontadas n'ont soudain pas paru être des mots galvaudés. Les Parisiens, tout près de l'abîme, ils ont eu peur ce soir. Mais les Villains leur ont joué un mauvais tour. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avait dit Bruno Constant tout à l'heure. Les vilains peuvent jouer de vilains tours. En tout cas, ils ont gagné leur match 3-2 dans un stade soudain incandescent. Quelle soirée. Cédric de Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Ah, vous avez encore un petit peu de voix?
Oui. J'en ai, vous inquiétez pas. Alors, d'habitude.
Oui. Alors Cédric, quand même, il y a eu un moment de flottement et les Parisiens ont douté ou ont fait douter.
C'est la Ligue des Champions, Annie. C'est vrai que c'est la preuve, en tout cas, que si vous baissez un poil d'intensité, si vous mettez un tout petit peu moins d'ingrédients, ça vous fait perdre un peu le fil du match. Parce que honnêtement, quand on voit le début de la rencontre, alors les 35 premières minutes, on voit un PSG qui certes souffre, on va dire, de l'engagement d'Aston Villa, mais qui a vraiment une maîtrise en termes habituels, la conservation de balles. et puis la capacité comme ça sur des contres à se montrer décisif. On a vu Barcola, on a vu Kvaratskhelia, on a vu Dembélé poser des problèmes à cette défense, et puis les deux contres magnifiquement joués, le but d'Hakimi derrière le but de Nuno Mendes, des buts d'avant-centre, hein. C'est quand même hallucinant ce qui est capable de faire cette équipe, en tout cas de faire marquer ces deux latéraux. Et puis derrière, au moment où on ne s'entendait pas vraiment à voir ça, Paris qui menait quand même 3-1, 2-0 sur l'ensemble des deux matchs, qui avait peut-être la tête déjà aux demi-finales. Alors ils n'ont pas eu de réussite sur le but encaissé parce que la frappe de Tillmans, ça n'est pas cadré, c'est détourné par Pacho, mais en tout cas c'est venu récompenser un petit peu les efforts des Anglais. Et puis il y a eu surtout ce début de deuxième période qui était complètement irrationnel. On parlait pendant la retransmission, il y a aussi il y a le but, mais il y a la forme, c'est-à-dire que McGinn, là, quand il accélère comme ça, il fait 30-40 mètres, mais il frappe sous la barre. En fait, ça galvanise toute l'équipe, ça galvanise le stade, et puis derrière, ça fait douter l'adversaire, en l'occurrence le Paris Saint-Germain. Heureusement que Donnarumma était là, parce qu'il y a eu plusieurs opportunités derrière avant le but de Konsa, encore des parades, et puis finalement Paris a remis un petit peu le pied sur le ballon et a plutôt mieux géré la fin de match, même si la charnière surtout était en grande difficulté à chaque long ballon, que Aston Villa essayait de profiter de ce genre de solution. Voilà, Paris en tout cas s'en sort bien avec ce 3-2. Même si sur l'ensemble des deux matchs, c'est quand même mérité.
Oui, on en viendra tout à l'heure aux statistiques, mais juste un regard d'ensemble sur ce match, Franck Simon. On les voit souriants pour certains Parisiens à l'instant, mais c'est vrai que ça a été compliqué.
Très compliqué, parce que c'est plus que des trous d'air qu'ils ont subis. Il y a 30 minutes d'absence. Il y a 30 minutes de fébrilité, il y a une demi-heure où ils font preuve de suffisance, c'est ce que disait Pat Julia et même Cédric.
Oui.
Donc clairement, de ce point de vue-là, ils ont été en deçà de ce qu'on était en droit d'attendre d'eux sur ce qu'ils ont montré avant. C'est une fin de série. Alors ils sont qualifiés, et voilà, mais l'histoire, elle ne se termine pas là, au contraire. Mais c'est... Il n'y a pas de quoi sauter au plafond de cette performance sur le plan collectif. Après, on va peut-être s'attarder sur les cas de certains.
Exactement. Après, sur l'ensemble aussi, Ludovic Duchesne, avant qu'on entende Ousmane Dembélé, qui était en sortie de match, c'est Paris, finalement, qui a montré à nouveau peut-être certains doutes.
Oui, je pense que ça leur servira. Si on doit retenir un aspect positif, c'est que je pense que peut-être que Paris a été trop facile ces dernières semaines. Et du coup, c'est un rappel à l'ordre sérieux pour les Parisiens, puisqu'ils sont passés vraiment tout près de la correction sans un très, très grand Donnarumma. Je pense que peut-être son meilleur match avec le Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. On a retrouvé le Donnarumma de l'Euro gagné par les Italiens. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais il y a des joueurs quand même qui sont passés complètement à travers. Je pense à Vitinha, Mendes, Kvara, Barcola, qu'on n'a pas reconnu ce soir. Donc c'est un vrai rappel à l'ordre. Puis c'est aussi ça, la Ligue des Champions. Voilà, c'est ce soir la revanche des petits, en tout cas. On parlera de Dortmund après, mais d'Aston Villa. Aston Villa qui avait fait une première partie de Ligue des Champions très bonne, qui avait battu le Bayern.
Exactement.
Donc ils se sont rappelés à la Ligue des Champions.
Oui. Et puis qui avait deux buts de retard pour ce qui est d'Aston Villa. Le PSG avait deux buts d'avance et finalement.
Il a marqué ce but avec Nuno Mendes dans le temps additionnel la semaine dernière.
Exactement, ouais. Exactement. Un but ô combien important ce soir. Écoutons la réaction de Ousmane Dembélé en sortie de match, et il ne souriait pas beaucoup, l'attaquant en français.
On s'est rendu la tâche difficile, même si Aston Villa a mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs aussi, mais je pense qu'on s'est rendu la tâche très difficile, surtout en deuxième mi-temps où on s'est complètement relâché. On s'est cru trop beau à 2-1, on a cru que qu'on était déjà qualifié, que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes juste devant leur public, avec un public chaud comme ça. Ils peuvent renverser le match, donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finales.
Il va falloir être plus exigeant, Cédric. En tout cas, ça a rendu... On entendait à un moment, au départ, les supporters français qui chantaient. Effectivement, il y avait de quoi. Et puis soudain, ça a été l'incandescence des Anglais.
Bah après voilà le c'est je crois que c'est Bruno Constant d'en discuter aussi là ces dernières semaines, mais c'est un petit peu comme ça les stades anglais, c'est-à-dire que Anfield c'est pareil, il y a un avant-match quand même assez incroyable, beaucoup de bruit, on a commencé la retransmission, j'entendais quasiment pas en fait les retours et les gens en studio, il y avait un bruit de fou, mais c'est vrai qu'une fois que Paris a marqué, bah pouf. Tout s'est arrêté et le public a un peu fonctionné à réaction, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait un corner ou à chaque fois qu'il y avait voilà une situation dangereuse ou voilà pour voilà un tacle, quelque chose de positif pour son équipe, mais c'est pas un public qui pousse comme ça sur la durée et qui chante on va dire continuellement pendant 90
c'est
minutes.
C'est épidermique les réactions en fait, hein.
Voilà, c'est ça, exactement, c'est à réaction plutôt, mais c'est vrai que par contre quand ça pousse hein, donc mais c'est en tout cas, elle est intéressante, la réaction d'Ousmane Dembélé, elle est plutôt lucide c'est rassurant d'une certaine manière mais comme ça à chaud, un joueur de sa trempe soit capable d'une analyse en tout cas aussi juste, mais c'est vrai que voilà, le PSG n'a pas montré tout ce qu'il fallait ce soir que ça se passe bien dans le futur en Ligue des Champions. Voilà, c'est un petit peu inquiétant, on va dire.
Ouais. Franck, alors allons-y, décortiquons un petit peu ce match, parce que c'est vrai que c'est la première défaite pour le Paris Saint-Germain en 14 rencontres. Et là, on avait l'impression, comme le dit Cédric, hein, qu'il y en avait beaucoup qui étaient absents et qu'il a manqué quelque chose ce soir, clairement, à cette équipe au bout d'un certain temps.
Oui, c'est-à-dire que comment ils sont entrés dans ce match, sachant qu'ils allaient se faire secouer par l'adversaire, ils ont bien résisté et même ils ont mis deux buts derrière. Et puis, d'un seul coup...
De 2-0, on est passé à 3-2.
Voilà, tout se fige, en tout cas pas dans la défense, parce que ça se délite. Et il y a des joueurs, Mendes, tu as cité même des milieux de terrain, tu as parlé de Vitinha aussi. Guevara, qu'on a vu un peu défendre, mais qui fait une mauvaise passe, qui profite.
C'est un mauvais match, franchement.
Ouais. Et même derrière, Pacho, je suis désolé, même s'il sauve en toute fin de match l'occasion.
Oui, quand c'était compliqué. Oui. Hein.
Mais ça a été compliqué pour Pacho. Hein. Voilà, la charnière a souffert.
Marquinhos, ça a été très bon, par contre. Ouais. Vraiment fait un bon match.
Et donc, petit à petit...
Les deux, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est un peu ça. Hein. Pardon, vas-y, Franck.
Franchement, ça s'est délité. Alors, ça commence par un joueur, puis un autre, puis un autre. Et puis... Tu sens pas c'est un esprit de révolte, quoi. Ils se sont fait marcher dessus. Enfin, je veux dire, ils ont donné la force à l'adversaire.
À ce moment-là, quand le Paris Saint-Germain déjoue complètement, surtout à la reprise de la deuxième période, où là, c'est vraiment le néant total.
Mais tu t'attends pas à ça. Tu t'attends à ce que l'entraîneur les ait secoués à la pause, quand même.
Je sais pas, j'imagine qu'il l'a fait. Ouais. Mais après, dans cette période-là où il y avait plus, on a l'impression qu'il y avait plus de patron, voilà. Ouais. Il y avait aucun patron. C'est bien de faire une équipe, d'avoir un collectif très fort. Mais à ce moment-là, à part Dembélé qui se démultipliait avec les bras, qui hurlait envers ses camarades,
il était un peu seul.
Pas de patron sur le terrain parce qu'il y a que des jeunes joueurs et parce que Neves qui a encore fait son match ce soir peut pas prendre toute la charge.
Ils ont pris des bouillons
de ce qui
au
s'est
milieu
passé,
terrain.
C'était trop compliqué. Ruiz aurait dû peut-être le faire, mais on s'est rendu compte à ce moment-là. Il y a Marquinhos mais il est derrière, mais c'est pas son caractère. Mais c'est vrai que ça manquait de patron. Ce soir ils sont passés tout près de la correctionnelle.
Vous vouliez ajouter quelque chose, oui, Cédric.
Non, mais je disais qu'en termes de style aussi, hein, c'est vrai qu'une équipe anglaise comme ça qui met autant d'impact avec des joueurs, enfin Camara, Onana au milieu de terrain, oui, c'est pas Vitinha et Neves. Ils ont d'autres qualités, mais c'est vrai que voilà, dans ce genre de match où y a beaucoup d'intensité, c'est vrai que les Parisiens se sont un peu fait bousculer là-dessus et
ils sont vus trop beaux.
Qu'ils avaient. Voilà, c'est ça. Et peut-être que. Peut-être que ce côté, en tout cas, cette habitude qu'ils ont pris, voilà, de faire ces séquences-là incroyables de conservation de balles, ça peut fonctionner, mais ça a ses failles. En tout cas, côté Aston Villa, on avait trouvé la façon de venir embêter ce PSG, quoi.
On a même retrouvé, malheureusement, certains défauts des Parisiens. Et Dembélé, il a été moins adroit, on va dire, balle au pied, hein, ce soir.
Moins adroit, mais il a quand même
une passe décisive.
Ouais, il fait quand
bien
même.
Sûr.
Il a quand même travaillé, je trouve qu'il a, de ce point de vue, on ne peut pas tout lui reprocher, il ne peut pas être tout le temps super efficace.
Il a surnagé devant, devant les deux autres.
Ouais, les autres, on les a
vraiment
en
difficulté.
Barcola et Guevara.
Ils ont eu leur séquence aussi. Barcola a quand même fait des grosses différences en début de première mi-temps. Et ça a permis en tout cas de marquer. Donc. Je dirais plutôt, voilà, ils n'ont pas été complètement absents, mais on va dire sur courant alternatif. Voilà, c'était, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, mais Donc c'est juste qu'en tout cas sur 90 minutes comme ça, ben ça peut permettre à l'équipe d'en face de prendre le dessus.
Annie, ce que je voulais ajouter aussi à ce début d'analyse, c'est que c'est une nouvelle défaite pour Luis Enrique face à un adversaire anglais. Et il en a connu avant, donc c'est pas anecdotique.
Arsenal, Newcastle.
C'est pas anecdotique que tu perdes contre ces équipes-là dont tu sais qu'elles mettent cet impact. Ça, parce qu'il les a préparés à ça. Il les a préparés à ça, dans cette double confrontation. Alors, ça s'est bien passé au Parc, il y a une semaine en arrière. Ils ont su gérer ça, ils ont su revenir, eux. Mais là, à un moment donné, ils se sont fait vraiment secouer. Il n'y avait plus de répondants. Et effectivement, il y a eu ce petit réveil en fin de rencontre où on se dit ils peuvent peut-être inscrire le but de l'égalisation, du match nul. Mais il y a un Martinez en face qui fait la différence aussi. Hein.
On a vu deux gardiens qui ont eu des rôles très importants ce soir, Cédric. Hein.
Ah bah plus encore Donnarumma quand même, parce que c'est vrai que Martinez il fait des arrêts, il est présent, mais même s'il y a eu des face à face, c'est vrai qu'il les a plutôt bien.
Il y a trois face à face, Cédric,
il les a plutôt bien fait. Il est plutôt adroit en face à face, je crois que c'est quelque chose qu'il arrive bien à maîtriser. Hein,
contre Hakimi, contre Dembélé, contre Doué, dans le dernier quart d'heure, il sort quand même trois ballons. Hein.
Voilà, on l'avait vu lors d'un match important lors de la dernière Coupe du Monde que les face à face ils savaient faire. mais Donnarumma il fait quand même deux trois arrêts lors de la tempête là.
Il aurait dû être élu meilleur joueur du match, je pense.
Sur Rashford, la claquette qu'il met qui permet de faire un arrêt de grande classe, là la tête de Tillman. En tout cas,
tous ses coéquipiers sont allés le voir, donc c'est quand même symbolique de ce qu'il a pu
ce soir.
Et puis il peut rien faire en tout cas sur le but. Alors je sais pas si on l'a compté à Pacho ou à Tillmans le premier but d'Aston Villa, mais parce que le ballon est complètement contré, il est pris à contre-pied. Et puis derrière, en tout cas. C'est sûr que heureusement qu'il était là et heureusement qu'il était là déjà face à Liverpool. Mais il faut un grand gardien aussi pour aller en Ligue des Champions, donc tant mieux. Mais c'est aussi le signe que Paris a beaucoup souffert, donc
Il y aura des leçons à tirer de ce match, évidemment. Warning. Et on va écouter Luis Enrique, l'entraîneur des Parisiens. Il est au micro, tout comme tout à l'heure Ousmane Dembélé de nos confrères de Canal+, qui retransmettent le match.
C'est toujours difficile de qualifier pour la demi-finale de Champions League. C'est le deuxième consécutif et on est très content. Le match a été très difficile et je pense qu'on a commencé de la meilleure manière avec les deux buts. Mais après ça, on a eu des complications. Et jamais tu dois avoir excès de confiance. Jamais, parce que un match de football change en chaque moment et tu dois être prêt. Tu dois voir ça dans le positif, dans le très positif, et on est clairement très content.
Il dit beaucoup de choses quand même en même temps, Franck. Hein.
Mais ce que j'ai retenu, c'est au-delà du fait qu'il l'ait fait en français, donc ça fait plaisir de l'entendre s'exprimer.
Exactement.
Et analyser en français, il a dit excès de confiance. Et c'est ce qu'on a ressenti. Donc tu mets pas les ingrédients, mais en plus déjà psychologiquement, mentalement, t'y es pas alors.
Hein. Comme Dembélé l'a dit, on s'est vu trop beau, donc c'est assez clair sur ce qui s'est passé entre la 30e et la 60e. Ils mènent 2-0, ils sont qualifiés. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est une qualif à Guamer quand même.
T'es qualifié.
T'as pas blessé.
C'est quand même de passer, t'es qualifié, t'es en demi-finale. C'est vrai que ça fait deux ans de suite, donc ça reste...
C'est la cinquième demi-finale pour le Paris Saint-Germain dans l'histoire du club.
Maintenant, le truc, c'est d'aller au bout. Au niveau des clubs anglais, ils sont bien rodés. Donc si c'est Arsenal, je pense que là, dans le championnat, ils sont quand même pas mal. Ils commencent à savoir un peu. Puis ils ont joué déjà Arsenal cette année. Donc,
alors, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain soir.
Pas le Paris...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Pour les paris, peut-être, alors.
Alors, les paris...
j'ai quelques souvenirs à Bernabéu. Je peux vous dire que c'est pareil, ça.
Méfiance.
Les pourcentages, c'est 4% pour le Real. Vont se qualifier, mais après...
Il fallait qu'on me dise les pourcentages, là.
C'est 91% pour le PSG.
À 3-1, 2-0, là, c'était quoi, là? Parce que...
100%.
Donc, bon, voilà.
Non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on aime bien citer les chiffres froids et carrés, parce que heureusement que le football change tout.
C'est ça, la Ligue des Champions, c'est bien.
Bien sûr.
Franchement, c'est bien ce qu'il a dit le coach. Lui aussi était lucide. Alors forcément, il met en avant le positif, la qualification, le fait que c'est aussi une série de qualifications. Mais voilà, je pense que l'essentiel...
Après, pour qu'on ait l'impression que McGinn, c'est Lionel Messi, qu'il traverse tout le terrain, il frappe du gauche, incroyable. Il met presque en lucarne.
Mais il l'a fait.
Il s'est passé quelque chose quand même. C'est qu'à un moment donné, on a retrouvé un Aston Villa qu'on n'avait évidemment pas vu du tout depuis le match.
On n'imaginait pas
après,
ce niveau.
Il y a aussi une apathie là, de la défense pour le lycée comme ça, pour rester sur 30 cas. Il part de son camp, McGinn.
Mais les deux sont liés.
Derrière,
c'est
évidemment,
riche, pense,
hein. Évidemment, derrière, il s'enflamme, il met une frappe sous la barre. Enfin, derrière, bon, bah, je vous dis, ça galvanise tout le monde, ça.
C'est 30 minutes, hein. C'est pas juste un trou d'air dans l'avion. C'est 30 longues minutes où tu souffres.
Oui, non, mais je veux dire, sur cette action comme ça, voilà, c'est quand même.
Quand tu regardes les statistiques sur la possession, sur le nombre de passes réussies, c'est archi à l'avantage du Paris Saint-Germain, donc on va pas s'inventer une équipe d'Aston Villa qui joue au foot, parce que sur les deux matchs ils ont pas joué pratiquement, réagi et puis ils ont eu de la réussite.
Ils ont bien réagi
avec leurs moyens. Moi j'étais très déçu, je suis très déçu par Aston Villa.
Rashford a fait un gros match aussi.
J'ai trouvé que sur les deux matchs vraiment ils étaient peut-être qu'ils méritent leur 7e place en première ligue, je sais pas, mais je les ai trouvés moyens. Ils ont profité du gros temps faible du Paris Saint-Germain pour espérer, mais sincèrement, bon,
Cédric, il s'est régalé en tout cas parce qu'il a vécu de sacrées choses. Hein.
On a l'impression.
Ah ouais, ben là, en fait, mais surtout que, non, mais alors, je vous, pour être très honnête, pendant le match, on était un peu là, bon, bah 2-0,
finalement, bon, c'est moins intéressant.
Gérer, et puis non, mais en fait, pas du tout. Donc,
ici aussi, un peu, Cédric, hein, pour être honnête, il y avait certains supporters du Paris Saint-Germain qui se croyaient déjà.
Des noms.
Ah bah oui, mais ça c'est un peu le péché mignon, hein, vous savez, hein, c'est un peu la suffisance, on connaît, hein, donc bon. Non mais comme quoi, si le joueur et l'entraîneur, en tout cas, enfin les joueurs et l'entraîneur sont un peu conscients de ça, voilà, ça c'est pas plus mal pour la suite.
Ils sont vaccinés pour les demi. Ouais.
Il y a eu l'entrée de Asensio qui a été remarquable quand même aussi. Hein,
Il a vraiment l'égalisation au bout du pied parce que son duel perdu face à Donnarumma, ça coûte très très cher au final. Mais après, bon, comme il va revenir à Paris, ce qui est quand même prêté, je le rappelle, bah, il est quand même mieux qu'il ne marque pas parce que sinon, il n'aurait pas été très très bien accueilli. Bon, trêve de plaisanterie. Non, je trouve qu'au niveau des choix par contre, d'Unai Emery, c'est vrai que ne pas mettre Watkins qui est en pleine bourre en ce moment, qui a fait un dernier match magnifique. Bon, sans doute, ça a permis au Paris Saint-Germain peut-être même de se qualifier. Mais à ce niveau-là, ils ont joué avec leur qualité, voilà, qui ne sont pas formidables.
Avec leur trip aussi. Hein,
voilà, avec leur envie, avec leur détermination. Ils n'ont jamais baissé les bras et puis ils ont failli revenir. Voilà. Ils ont quand même terminé dans les 8 de cette première phase de la Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien.
C'est une bonne équipe, hein, et la preuve,
ils ont battu Paris Saint-Germain
depuis le début. Ils ont battu le PSG, c'est mérité, et voilà, il faut pas faiblir
Cédric, tu sais ce qu'on dit. Regarde, tu prends l'équipe d'Aston Villa, combien de joueurs tu mets dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Moi, je pense que tu vas pas en mettre beaucoup. Non, mais sincèrement, sans les dénigrer ou quoi que ce soit, je pense que t'en mettras
pas
beaucoup.
Après, ça dépend quel style vous voulez. C'est sûr que Luis Enrique n'en met aucun. Mais moi, Boubacar Camara, j'aime bien.
Ouais, Camara, on adore.
Il a
failli venir au PSG, d'ailleurs, ça aurait été bien.
En plus, Rashford aussi a failli venir au PSG, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Meilleur que Barcola, en tout cas. Donc, bon. Non, mais voilà, il y a évidemment qu'il n'y a pas photo, en tout cas, sur les deux effectifs et les deux matchs. Mais c'est vrai que, voilà, ça nous a. C'est un vrai match de Coupe d'Europe.
Voilà, vrai match de Coupe d'Europe. Et surtout, pour obtenir cette qualification, eh bien, les Parisiens ont souffert au match retour. Et eh bien, on les retrouvera, en tout cas, en demi-finale. Alors, contre Arsenal ou contre le Real Madrid. Ça, c'est quelque chose qui. On le saura à peu près dans 24 heures.
Demain, Et un match de Coupe d'Europe avec la chanson de. C'était pas la Champions League qu'on a entendu.
Ah oui, non, alors ça, c'est. Oui,
ça les a motivés peut-être.
Alors là, ça a été.
C'était drôle, ça. C'était drôle.
Attendez, on va.
Ça, c'était assez drôle quand même.
Voilà, Laurent, il l'a.
Merci Laurent, merci Maestro.
Bien joué.
Tout d'un coup, on s'est tous dit là, mais qu'est-ce qui se passe?
C'était pour l'année prochaine.
Et surtout, j'imagine, c'était la tête des joueurs et la tête des gens dans le stade.
Non, non, mais moi, en fait, j'étais un peu centré sur l'avant-match et j'ai entendu ça d'une oreille parce qu'en fait, j'avais la musique de la Ligue des Champions du studio de RFI et j'avais ça et on se regardait tous un peu comme ça.
RFI, c'est pas trompé, voilà.
Mais vous savez, c'est aussi la preuve. Aston Villa, ils ont pas l'habitude.
Ils ont perdu parce que je crois que c'est en 82 qu'ils ont gagné la Ligue des Champions.
Bah, ils ont gagné pour la première participation. Première participation, une victoire finale, c'est quand même pas mal. Mais ouais, c'était leur troisième participation. Et... Non, mais c'est un petit peu le clin d'œil, mais c'est, voilà, c'était assez,
et après,
assez rigolo de voir
ça. Et après, Cédric, ils ont essayé de se rattraper pendant que les joueurs étaient déjà en train de se placer. Ils ont envoyé le bon hymne.
C'est surtout pour les joueurs que c'est dommage, non, parce que ça reste
mais un après, il y avait une ambiance et ça a hurlé. Je vous cache pas que c'était un peu, on va dire caché, masqué par la furie un peu des supporters. Ah
bon, mais en tout cas, on voyait les joueurs qui se regardaient, qui se disaient, mais qu'est-ce qui nous
arrive
ce soir ?
Ça les a fait rire, Kilman, c'était mort de rire.
Oui.
Bah, ils ont préféré en rire.
Oui, parce qu'ils ont l'habitude du vrai, on va dire, du vrai hymne, bien sûr. Bien, merci beaucoup Cédric de Oliveira.
Merci à vous.
Many thanks pour cette soirée incroyable et ce suspense.
Merci à vous.
À partir de Birmingham.
Et à
très bientôt et bon retour vers Paris. Merci. On va continuer, nous, les amis, et on va évoquer bien cet autre match parce qu'effectivement, il fallait avoir deux écrans et on ne s'ennuyait pas parce que quand ça marquait d'un côté, ouais, ça marquait
ping-pong,
un. C'était absolument incroyable. On y va pour ce match entre le BVB, le Borussia Dortmund, et le FC Barcelone.
Ballon gagné par Duranville, peut-être le débordement, le centre assez fort, ça traîne, ça rentre avec le doublé pour Serhou Guirassy. On réclamait du suspense pour le dernier quart d'heure, on va l'avoir.
Et oui, ça fait bien 3 buts, il doit peut-être prendre la place justement de meilleur buteur de cette compétition avec ce triplé, David.
Il l'est, lui qui avait réussi.
Les Barcelonais avaient 4 buts d'avance et on peut dire heureusement parce que eux aussi ils ont eu chaud là-bas du côté de la Roure devant ce mur jaune qu'on vantait et surtout dans cette ambiance on a vu les supporters du BVB y croire pendant quelques instants. Ils sont qualifiés, ils sont bien sûr en demi-finale de cette Ligue des Champions. On vient de voir Ludovic que c'est la première qualification depuis 2019, ça veut dire qu'il y a eu des périodes très compliquées où ils ne sortaient pas parfois de la phase de poule de l'époque, où ils s'arrêtaient en huitième de finale, avec une satisfaction sans doute de la part de ce BVB. Franck Simon, c'est le buteur africain.
Serhou
Guirassy qui quitte la compétition en ayant retrouvé le poste de meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison.
Ouais. Ce qui n'est pas rien, je trouve, face au Barça, même s'ils ont fait preuve de largesse défensive. Mais bon, voilà, il nous a prouvé qu'il aimait, lui et son club aimaient cette compétition. Il est très adroit. On le savait dans la surface de réparation. Les dernières éditions de la Bundesliga nous l'avaient confirmé. Et puis voilà, quoi, il s'est amusé à faire trembler.
Il a inscrit un pénalty d'abord, ce qui était.
Avec beaucoup de sang-froid,
contre Chesney.
Palenka, oui.
Qui avait fauché un autre joueur de Dortmund dans la surface. Et ensuite, il y a
une tête. Et puis, il y a un ballon mal dégagé par un défenseur. Du Barça qui reprend à bout portant. Ben voilà, mais c'est des buts qui lui ressemblent, c'est des buts.
13 buts, Franck, c'est énorme.
Bien sûr que c'est énorme.
C'est énorme, ouais. C'est un chiffre quand même qui le.
13 buts en 14 matchs.
Qui le classe parmi les très très grands attaquants européens. Ça fait plus de doute pour moi depuis déjà 2-3 ans, mais il confirme qu'il est vraiment au top niveau.
Ouais, malheureusement. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne verra pas en Coupe d'Afrique des Nations avec le Sili National.
Ouais.
Mais en revanche, pour le titre de meilleur joueur africain, c'est quelque chose que tu prends en considération même, cette participation, les 13 buts, quart de finale, un joueur important en Ligue des Champions
au niveau continental de l'Afrique,
c'est pas rien.
Surtout que l'année dernière, il était déjà. On chantait ses éloges. En tout cas, il a 13 buts en 14 matchs et il est devant Rafinha et Lewandowski, qui sont deux joueurs du FC Barcelone, qui ont 12 et 11 buts. Et ensuite, plus loin, on aura d'autres joueurs comme Harry Kane. Exactement. Cette rencontre, elle a été un peu folle aussi, Ludovic.
J'ai envie de le comparer aussi au match du Paris Saint-Germain. On a vu vraiment une équipe de Dortmund qui s'est révoltée, qui s'est retrouvée surtout.
Il l'avait dit d'ailleurs, Niko Kovac. On se souvient, avant le match, il avait dit « on remportera ce match ». Histoire, de sauver l'honneur, parce que 4-0…
Mais ils ont fait mieux que ça, je te dis.
Ils ont été un peu ridicules à l'aller. Ouais. Et là, ils ont fait un match mais énorme. Ça a été une tempête. parce qu'ils ont marqué 3 buts, mais ils auraient pu en marquer 6.
Ils ont eu la possession.
Ça a été impressionnant. Toutes les occasions, il y a, je crois, il y a 2 buts refusés avec avec la VAR. Mmh. Ils ont un nombre d'occasions incalculables. Et voilà, et on s'imaginait une finale assez tranquillement PSG-Barcelone. Mais quand on a vu les deux clubs là ce soir en grande difficulté,
secoué,
c'est bien la preuve que cette compétition, voilà, quand on s'appelle Dortmund et Aston Villa, eh ben on peut aller loin. On a vu Lille battre le Real Madrid, l'Atlético. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut voir. Et en tout cas, côté allemand, on doit être rassuré. Parce que même si en championnat, ils sont quand même distancés, ils font pas une très très bonne saison. Là, quand même, ils ont fini sur une très très bonne note. Et peut-être même avec quelques regrets.
Oui,
certainement.
Oui, ouais, certainement. Ouais. On va écouter justement immédiatement Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone, qui a été à la peine hein, ce soir. Il a beaucoup souffert.
On est content, on est encore en lice sur tous les tableaux, on est en demi-finale, ça faisait 6 ans pour le Barça, donc il faut y donner beaucoup de mérite, je pense qu'on fait les choses bien globalement, juste ce soir on aurait pu faire mieux. Alors, on est content d'être passé, on verra contre qui on jouera en demi-finale, le PSG ils sont de l'autre côté du tableau, donc on verra.
Ce FC Barcelone, n'oublions pas, il pense au triplé. Et c'est vrai, on en a déjà parlé. C'est non seulement la tête du championnat espagnol pour l'instant. Ils ont 4 points d'avance sur le Real. Et puis le FC Barcelone, c'est aussi la Coupe du Roi où ils seront en finale contre le Real.
Ouais, bah comme le PSG.
Comme Paris. Ouais, ça n'empêche que tu peux être en très grande difficulté sur une rencontre face aux... Ils sont combien Dortmund 9e, 10e de Bundesliga. Voilà, c'est aussi le foot, c'est la Ligue des Champions. Moi, c'est ce qui m'a plu ce soir, c'est qu'on a revu des équipes à Dortmund. Bon, c'était quand même le dernier finaliste de la Ligue des Champions. C'est pas non plus le petit pousset de la compète. Mais quand même, ce soir, très très belle réaction d'orgueil de la part des Allemands. Et ça prouve que c'est un club qui, dans cette compétition, se rate rarement. Et ils sont quand même
ils sont ratés.
Ils étaient finalistes l'année dernière.
Voilà. Mm-hmm. Ils sont ratés.
Ils se sont ratés à l'aller, un peu comme finalement, je pense à Aston Villa, c'était raté en encaissant ce 3e but hein, en fin de match. Mais surtout, ils redressent la barre quand même en championnat où ils étaient assez loin. Et finalement, par exemple, le classiqueur au cours du week-end, il leur avait servi de bonnes remises sur les rails.
C'est sûr que ça arrive à point nommé quand vous jouez comme ça ces matchs-là. Et je trouve que ce soir, ils ont été au rendez-vous. C'est vrai que ça m'était un peu sorti de la tête, t'as eu raison de le rappeler, Ludo, le fait qu'ils étaient finalistes hein, aussi contre le Real. Et voilà, ils sortent par la grande porte, ils se sont ratés à l'aller, ils font une super presta.
Ouais, sans doute le bon boulot de Niko Kovac, qui a quand même repris l'équipe au plus bas, en grande difficulté, et qui quand même l'a bien redressé.
Et qui s'est passé de son buteur, Guirassy, pendant quelques matchs. Ça aussi, ça a dû gêner. Écoutons-le justement, Serro Guirassy.
Ouais, je peux être fier, mais franchement, pour moi, comme j'ai dit à maintes reprises, c'est pas parce que ce soir je suis meilleur buteur et je mets un triplé. Non, je crois en moi, je sais que je peux batailler dans ce genre de compétition. Je l'ai montré ce soir. Après, voilà, il y a des matchs où tu loupes des occasions, mais c'est comme ça. Même les plus grands, ils loupent des occasions, mais ouais, bien sûr que je suis content et c'est une fierté.
Voilà, et peut-être que eh bien il sera très important pour la fin de saison en Bundesliga.
Oui, ça va aider pour remonter les places. Ah,
à la 29e journée, ils sont 8e, mais ils ont 42 points. Or, le 4e classé pour la Ligue des Champions, il a 6 points d'avance. Donc bon, peut-être qu'au moins accrocher une place européenne ou un sans faute, effectivement. Les amis, en attendant qu'on vous entende sur les matchs de demain, on va écouter ce qu'on disait dans la première partie de Radio Foot, et c'était sur cette hypothèse des éliminations possibles, probables du Real Madrid et du Bayern de Munich. Et on le sait, tout est possible en football. Deux grandes Europes donc sur le point de vaciller en quart de finale et de ne pas figurer dans le fameux dernier carré. Le Real de Madrid est-il à 24 heures d'un exploit? 3 buts de retard alors que les Gunners joueront demain à Santiago Bernabéu. Pourquoi peuvent-ils y croire? Eh bien, je vais vous poser la question à chacun. Allez, Saïd.
Ils sont à 24 heures d'un exploit comme ils sont à 24 heures d'un désastre. Je pense qu'on peut y croire parce que le Real Madrid a prouvé au fil des saisons que c'était un peu comme la Casa de Papel. C'est une équipe de, c'est une équipe de braqueurs. Même quand il n'y a plus d'espoir, ils arrivent toujours à avoir une petite étincelle, à réussir à
ils sont
à remonter.
Espagnols, la Casa de Papel, tout va bien.
Mais aujourd'hui, moi, je suis quand même un petit peu pessimiste pour le Real. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une stat, moi, qui m'a particulièrement frappé. C'est le nombre de kilomètres parcourus par les attaquants. en Ligue des Champions. Et dans le top 5 des attaquants qui courent le moins, bah, y a tout simplement le trio d'attaque du Real Madrid avec Vinicius et Mbappé qui sont même dans le top 3, eux deux. Et un petit peu plus haut, on a Rodrigo. Et en vérité, aujourd'hui, le football, on le voit avec le PSG, on le voit avec le Barça, on le voit avec Liverpool. C'est un sport collectif où il faut que chaque joueur court pour l'autre, fasse des sacrifices. On ne peut pas se permettre d'avoir trois joueurs comme ça qui courent moins de 9 km par match. C'est trop handicapant. Un joueur comme Bellingham aujourd'hui fait les efforts pour compenser, mais ça suffit pas. Et le fait qu'il fasse autant d'efforts défensifs, eh ben on se prive de tout son apport offensif. Je pense que cette saison, elle est un petit peu à oublier côté Real Madrid. Il y a Kylian Mbappé qui vient d'arriver. C'est une saison de transition.
À oublier.
Il va falloir saison à oublier en Ligue des Champions, sortir en quart de finale.
Oublier. Ils sont encore qualifiés en Coupe du Roi. Ils sont qualifiés en championnat.
En Liga, ils n'ont pas lâché
points,
encore.
4 points d'écart. Mmh.
Bah saison à oublier en quart de finale pour la Ligue des Champions.
Et le Real à l'attaque d'un match retour de Ligue des Champions. S'il y a bien un club au monde qui peut renverser un déficit de 3 buts, c'est le Real Madrid.
Bien sûr,
je suis comme toi, je suis très pessimiste.
J'ai commencé par ça, mais pour moi, la Coupe du Roi, on sait tous qu'en Espagne, voilà, c'est anecdotique, en tout cas pour un club de la stature du Real Madrid.
C'est anecdotique s'ils peuvent éviter une saison blanche.
Reste, oui, s'ils évitent une saison blanche, mais je pense que par rapport au standard, le fait d'avoir fait venir Kylian Mbappé. Si le bilan à la fin de la saison, c'est de se dire on a eu juste la Coupe du Roi avec Kylian Mbappé, je pense que c'est quand même un échec. Kylian est venu pour la Ligue des Champions, sortir en quart de finale face à Arsenal.
Mbappé ou pas, le Real Madrid, s'il n'y a pas de Ligue des Champions ou de Liga à la fin de la saison, ça reste un échec. Mmh. Parce que c'est le standard du Real qui est hyper exigeant.
Mais c'est ça aussi peut-être le piège pour eux, Bruno, c'est-à-dire tous les ans être dans le dernier carré de la Ligue des Champions, mais c'est un exploit quand même, être parmi les quatre meilleurs d'Europe. Il y a des années où on peut être éliminé, bon bah là on peut louper un match et ils ont clairement loupé le match aller à Arsenal. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mieux organisés, qui couraient plus, c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est peut-être aussi être trop exigeant.
Non, c'est pas trop exigeant parce que c'est le recordman de victoire en Ligue des Champions, donc l'exigence elle est permanente au Real Madrid.
Ah, mais ils sont tenants du titre, ils peuvent le lâcher un peu pour d'autres.
Je suis pas sûr
que ce soit dans les esprits. Hein.
Non, mais
il vit l'excellence madrilène.
Il vit avec cette exigence-là depuis tout temps. Donc là, mais ce qui s'est passé à Arsenal, c'est quand même le reflet de leur saison. Parce que cette saison, ils sont pas bons dans le jeu, c'est déséquilibré. Toni Kroos a pas été remplacé. Mbappé, pour moi, n'est pas le responsable de tout, mais ça a forcément un peu déséquilibré le vestiaire, en tout cas vis-à-vis de Vinicius et Bellingham, qui étaient les deux stars la saison passée. Mais voilà, après, le Real, c'est ça, on ne peut jamais... Et moi, je trouve que c'est leur force. Même avec un déficit de 3 buts, on est toujours en train de se dire « Mais peut-être qu'ils vont le faire quand même. » Et ils se préparent à le faire. Ils ont commencé la petite musique.
C'est ça l'ascendant un petit peu psychologique qu'ils ont sur l'adversaire, au départ.
S'ils marquent un but dans le premier quart d'heure, quand on est les Gunners, on va se dire mais qu'est-ce qui va se passer quoi.
Ils peuvent vite rentrer dans la tête des joueurs d'Arsenal parce qu'ils ont un passif. Ils l'ont déjà fait une fois, deux fois, trois fois. Donc psychologiquement, c'est vrai qu'il y a une attente chez l'adversaire. On se dit si je prends un but au bout de la 7e minute, je vais être une nouvelle victime du fameux Real Madrid. Possible. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect psychologique là qui est très fort.
Après, Arsenal a des arguments. Ouais, c'est sûr. Que c'est la meilleure ou deuxième meilleure défense d'Europe avec l'Inter. Ils sont capables de défendre en bloc bas. Ils l'ont déjà fait en première ligue plusieurs fois. Ils sont capables d'avoir un jeu pragmatique. Et puis, ils ont intensité dans leur jeu quand ils se mettent à presser. C'est redoutable.
Eric, alors pourquoi doit-on y croire? Est-ce que parce qu'ils ont 15 trophées? Alors, ils ne sont pas tous étoilés sur le maillot, mais on le sait tous.
On a rigolé, on a vu rigoler sur les réseaux sociaux en se disant, bon... comment l'arbitre va pouvoir aider alors là c'est Le Texier qui va être arbitre de
arbitre
ce match-là.
Français
alors on a envie de se dire qu'il va être impartial, mais bon, mais voilà, au-delà de ça, par rapport à la performance d'Arsenal, j'ai aussi du mal à croire que le Real, alors c'est pas parce qu'ils sont pas capables, c'est juste que Arsenal a tellement bien défendu sur ce match aller que je me dis qu'ils vont avoir le même état d'esprit et la même volonté, et que cette équipe du Real va peut-être encore plus sortir parce qu'elle est vraiment obligée de revenir, et du coup Arsenal a aussi des arguments offensifs.
Est-ce qu'on va les voir courir autant que les autres?
Non, je crois
sans
pas.
Doute, non. Enfin, on ne l'aura pas dit pendant la semaine.
À mon avis, ils vont courir beaucoup plus que le match aller déjà. Ce qui sera déjà un bel exploit.
De 97.
Mais non, mais après, on n'est pas à l'abri d'une faute bête en début de match.
Un carton rouge au bout de 15 minutes, tu ne sais pas.
Gabriel, à Arsenal, il y a l'absence de Gabriel qui est pour moi énorme parce que c'est un super défenseur. Kivior qui a fait un bon match aller. Mais si tu le testes un peu plus, il est tout à fait capable de craquer, de prendre un rouge, de faire une faute dans la surface. Et ça peut relancer tout un match. Real, faut toujours se méfier.
C'est trop vu trop souvent. C'est terrible quand même de dire ça parce que tu te dis bon, 3-0 avec le match que tu as vu au match aller, tu te dis bon, il y a pas de raison que Arsenal craque, mais c'est le Real.
C'est le Real. Bon, ben on restera là-dessus, Eric. Et alors, le Bayern Munich, les Bavarois joueront, eux, à Milan, à Giuseppe Meazza, hein, nuance, ce n'est pas San Siro. Avec, c'est le même stade, bien sûr, tout le monde le sait, mais marrant, il change de nom selon l'équipe qu'il occupe, avec un but de retard seulement. Alors, cette équipe, elle a été piégée par cet impressionnant, tout le monde est un peu d'accord là-dessus, Inter de Simone Inzaghi. Et surtout, ils ont renversé une invincibilité qui durait depuis 4 ans. Ça faisait 4 ans en Ligue des Champions, 22 matchs que les Bavarois ne perdaient pas chez eux. Est-ce que, selon vous, cette équipe qui a quand même été assez brillante au match aller, alors ils ont manqué d'efficacité, mais Thomas Müller, l'infatigable, l'ancien, si c'est vous qui le dites, l'ancien qui a marqué le futur retraité, surtout, en tout cas retraité des Bavarois, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent retourner la situation à Milan, Eric ?
C'est pareil, je me rappelle, on en avait rigolé d'ailleurs, le Inzaghi avant le match qui pleurait presque et on avait presque envie de pleurer avec lui pour dire « Ah, j'ai pas de joueurs, ils sont meilleurs que nous et derrière ils vont gagner 2-1 là-bas ». Je pense réellement que l'Inter va gagner contre le Bayern et que ça va être compliqué parce que le Bayern est moins impressionnant que certaines années, même si il a toujours son vécu et son expérience dans cette compétition. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont moins forts que l'Inter sur cet affrontement-là.
Futur champion d'Allemagne, vraisemblablement.
Ils ont perdu leur meilleur joueur, Moussiala.
En plus,
au Bayern, c'est énorme. L'absence de Moussiala.
Saïd, hein, sur ce Bayern, enfin ce Inter-Bayern.
Je pense que c'est le match le plus équilibré. Le Bayern a pas mal d'arguments encore à faire valoir.
C'est sûrement le plus imprévisible en tout cas des quatre.
Hein. Au match aller, quand même, le Bayern a eu quand même pas mal d'occasions, ce qui peut laisser penser qu'ils vont encore exister. Un autre paramètre qui peut motiver les Bavarois, c'est que tout simplement la finale de Ligue des Champions, elle se déroule à Munich.
Sûr.
Donc il y a aussi tout cet aspect-là de se dire. Ce serait bête de sortir avec une défaite assez courte 2-1 au match aller, de ne pas aller en finale à la maison. Je pense que l'Inter a eu un game plan qui était quasi parfait. Ils ont réussi, notamment avec leur milieu de terrain, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, à vraiment prendre cette possession du jeu qui leur a permis de faire très mal. Mais le Bayern existe toujours. Hein. Il y a des joueurs comme Mikael Olise qui sont capables de faire la différence. Thomas Müller, il y a aussi cette expérience. Il a participé à tellement, tellement de campagnes européennes. Je pense que le Bayern existe encore, mais je ne saurais pas dire qui passera.
C'est compliqué, là. Bruno, Harry Kane.
Il a mangé la feuille, Harry Kane, au match.
Le chat noir.
Il va finir la saison encore.
Non, mais le pauvre, cette réputation.
Il va gagner
horrible.
La Bundesliga. Il aura son trophée.
Il aura son trophée, mais et celui de Ligue des Champions.
Moi, je trouve pas que le Bayern fasse partie des meilleures équipes d'Europe, en tout cas pour un dernier carré. Je trouve qu'il y a défensivement, il y a trop de largesse.
C'est fou, c'est déséquilibre.
Il y a encore plus des blessures qui se rajoutent à ça. Et moi, je trouve que l'Inter, et chaque année qui passe, je trouve toujours un peu plus fort, plus mature, plus expérimenté. Et moi, ça me fait vraiment encore une fois penser à City qui avait perdu la finale 2021. Ils reviennent en 2023. Ils sont moins visibles par rapport aux autres, moins étincelants. Mais ils font ce qu'il faut pour gagner, en fait, pour se qualifier, juste ce qu'il faut. Ils ne laissent rien à l'adversaire ou très peu. Et l'Inter à domicile, j'imagine pas les voir sombrer ou chuter.
Harry Kane est-il le Lewandowski de cette équipe du Bayern ?
Oui.
Est-ce qu'il est aussi bon ?
Oui, c'est deux joueurs un peu différents, parce qu'Harry Kane décroche plus, il fait plus de choses sur le terrain.
C'est plus au jeu,
Mais il est aussi un peu dépendant des autres. Et notamment, l'entente avec Moussiala était intéressante. Effectivement, ils ont une énorme pression. Vincent Kompany, sa première année aussi, c'est un jeune entraîneur, peu d'expérience, même si ça a été un grand joueur. Et pour moi, l'Inter est beaucoup plus armé pour aller. Et je pense même qu'on rêve tous du Barça, on imagine tous le Barça en finale déjà. Parce qu'est-ce qu'ils montrent offensivement, etc. Mais l'Inter, c'est l'équipe pour déjouer tous les pronostics.
Qu'est-ce qui vous plaît à l'Inter, Eric ?
Non, mais après, il y a une solidité collective, il y a une qualité offensive aussi, qui fait que, quand on se rappelle ce but qui marque avec la talonnade de Thuram, franchement, c'était...
Marcus Thuram et Lautaro Martinez.
Franchement, c'était magnifique. C'est du vrai football. Et elle a cette qualité-là aussi, cette équipe. Donc, en étant à domicile avec, avec le soutien du stade, que ce soit le Bayern en face ou pas, ils l'ont déjà montré en plus en Ligue des Champions et ils sont quand même assez brillants en Ligue des Champions, même si ils la gagnent pas, ils sont quand même assez brillants.
Ils la gagnent pas ces temps-ci.
Oui, ces temps-ci, oui, bien sûr.
Ils l'ont déjà gagné.
Oui, bien sûr.
Et alors la dernière fois, c'était tiens face au Bayern, justement. Saïd, qu'est-ce qui vous impressionne vous dans cette équipe? Parce qu'on n'arrête pas de parler de ce peut-être favori, mais qui avance un peu masqué, parce qu'effectivement, il y a pas de star qui dépasse. Hein, c'est alors là pour le coup une équipe. Un collectif, même son entraîneur, voilà, c'est Simone Inzaghi, mais c'est pas non plus Luis Enrique.
Tactiquement, ils sont très cohérents. Tout à l'heure, je parlais du milieu de terrain. Vous avez évoqué Marcus Thuram devant et Lautaro Martinez, mais on peut aussi parler de l'assise défensive avec un joueur comme par exemple Benjamin Pavard. C'est peut-être pas le joueur le plus beau. Moi, le premier, j'étais pas un grand fan de Benjamin Pavard, mais aujourd'hui, force est de reconnaître.
On le remerciera toujours.
C'est un joueur, voilà. C'est un joueur qui est
pour
fiable.
Non, de malade.
C'est un joueur qui est très fiable.
Qui a trouvé son équipe là-bas.
Qui a trouvé, voilà, ouais. ce système avec trois défenseurs lui convient parfaitement. Il y a aussi, on n'a pas parlé des gardiens. Au Bayern, actuellement, ils ont un jeune gardien qui a 21 ans, qui est pas très expérimenté. De l'autre côté, on a Yann Sommer, qui est quand même une référence, qui est passé par le Bayern pour remplacer notamment Manuel Neuer pendant une année. Yann Sommer qui est quand même une référence, qui est un gardien, voilà, c'est un chat, il est capable d'aller haranguer sa défense, de commander, etc. Je pense que vraiment l'Inter Milan a aussi cet avantage et à la fois de jouer à domicile mais aussi de l'expérience. Ça va être peut-être un peu trop juste pour le Bayern si je devais faire un petit prono. Voilà, je dirais que c'est du 55-45, mais c'est très léger.
Alors ça, c'était avant la soirée folle qu'on a vécue ce soir. Alors, messieurs, je vais vous demander d'abord, Ludovic Duchesne, au sujet de ce Real Arsenal. Rappelons-le, match aller 0-3, hein, 3-0, 3 buts d'avance pour les Gunners. Mais ils vont jouer à Bernabeu, ils vont jouer face à une équipe où l'irrationnel peut parfois compter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Bah, ils ont été beaucoup moqués depuis parce qu'ils sont tellement passés à côté. On a entendu des statistiques, c'est l'équipe qui court le moins et de très très loin. Ça rappelle l'ancien Paris Saint-Germain. Mais là, pour le coup, il y aura forcément une réaction d'orgueil. Néanmoins, parce que moi je mets un petit bémol, ils traversent quand même une saison où ils sont vraiment en haut et en bas et très irrégulière. Et il faudrait vraiment qu'ils soient dans un très grand soir, comme l'a été Arsenal au match aller, pour qu'ils puissent passer. Donc j'ai du mal à y croire sur ce match-là.
Franck ?
Pareil, peut-être une victoire effectivement du Real pour un petit peu laver l'affront du match aller, mais je pense les Gunners en capacité de marquer là-bas.
Mmh. Et donc de se qualifier. Ouais. Et donc de se qualifier pour les demi-finales. Et Franck, ensuite Inter-Bayern. Là, le Bayern a perdu 2-1. Voilà. Ouais. Il y a un but d'écart entre les deux, mais ça se joue à Milan.
Forcément, là, il y aura un avantage certain pour le club italien. Le Bayern, sans Moussiala, c'est plus vraiment le Bayern. Avantage à l'Inter, mais pas énorme. Mais sur le fait d'évoluer à la maison. Et puis la victoire de l'aller leur permet de peut-être de retrouver un petit esprit entre guillemets calculateur.
Quoi. Alors moi, c'est là où je vois mon petit exploit. Ah. Je ne vois pas les Allemands ne pas réagir, même s'ils ont fait plutôt un bon match aller. Ils ont perdu, mais parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup d'occasions. Mais je vois pas le Bayern sortir de cette manière. Et si ça tourne pour une fois un peu moins bien pour l'Inter, quand même beaucoup beaucoup de réussite depuis le début de saison. C'est une grande équipe, mais quand même. Mais je vois quand même les Allemands réagir et je dirais se qualifier.
Eh bien, on se parle demain alors.
Ouais. Voilà, exactement.
Bien sûr.
On verra ça demain soir. En tout cas, rappelons-le ce soir. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié en dépit de sa défaite à Aston Villa sur le score de 3-2. Les Parisiens donc en demi-finale pour la deuxième année consécutive, la cinquième de leur histoire. Et puis le FC Barcelone renoue lui aussi avec les demi-finales, le dernier carré européen. Il n'avait pas atteint ce niveau de la compétition depuis 2019 et il se qualifie eux aussi malgré leur défaite à Dortmund sur le score de 3-1 avec le triplé de Serhou Guirassy, le Guinéen qui est donc en tête de débuteur pour sa première grande campagne de Ligue des Champions, Serhou Guirassy le Guinéen. C'est la fin de cette soirée de Ligue des Champions, la première. Merci beaucoup messieurs, merci Ludovic, merci Franck, bonne nuit à tous et nous on se dit à demain pour encore deux éditions et le match du Real sera retransmis sur RFI.